Ni de l'heure. Poursuivons le dialogue. Merci, je vais essayer de suivre vos instructions. Et je poserai quelques questions brèves, mais j'ai aussi des questions qui me semblent importantes pour le comité. L'une de ces questions, je serai très concise. Est-ce que l'article 146 s'applique explicitement aussi pendant l'état d'urgence? Nous savons que les crimes que le droit d'être protégé par l'État contre le crime de la torture est un droit que l'on ne peut pas déroger dans les états d'urgence selon le droit international. Et nous aimerions savoir comment ceci est appliqué dans la législation. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez l'intention de réglementer cela? Parce qu'il y a eu un problème pratique et peut-être qu'il faut aussi y remédier par des voies légales. Ça, c'était ma première brève question. J'aurai ensuite une autre question sur les victimes des crimes de torture. Nous savons qu'il existe depuis 2018 un genre de fonds d'indemnisation. Les versements ont commencé en 2020, mais ce n'est pas exactement, comment dire, un fonds qui est alimenté par l'État. C'est un fonds qui est constitué en partie par les amendes versées pour infraction pénale ou infraction civile ou par le travail correctionnel réalisé par des condamnés. Et nous serions intéressés par la façon dont les victimes de la torture, pas des autres crimes, mais des victimes de la torture sont indemnisées. Combien y a-t-il eu de cas d'indemnisation de ces victimes qui ont eu lieu? Quelles sont les sommes qui sont reçues? Et est-ce que ces personnes ont aussi bénéficié d'autres types d'indemnisation comme des services de réhabilitation, des services sociaux, psychologiques, d'assistance psychologique et autre, parce que c'est une question très importante pour notre comité que de voir aussi comment on remédie à ces méfaits et quelles sont les intentions de l'État pour alimenter ce fonds, veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'argent sur ce fonds pour verser les indemnisations. Comme vous l'avez dit, vous enquêtez sur assez bien d'affaires et il se pourrait que ces fonds s'avèrent nécessaires. J'aurais une autre question. Vous avez mentionné les pourcentages de condamnation pour les crimes de torture qui ont abouti à des peines de privation de liberté. Mais il y a encore des pourcentages, si je ne me trompe pas, environ 20%, qui ne sont pas condamnés à ce genre de peine. Et donc nous aimerions savoir quels sont les autres types de peines qui sont appliquées et pourquoi. Parce que la torture est un crime très grave et quelles sont les raisons qui expliquent qu'un cinquième des affaires, comme vous l'avez indiqué, et des personnes qui sont condamnées pour ces crimes reçoivent d'autres types de peines. Et si vous pouviez aussi expliquer les nombres, pas seulement donner des pourcentages. Ma collègue a parlé de façon assez détaillée, donc nous sommes heureux de voir ce transfert de responsabilité vers le ministère de la Santé. Mais nous aimerions ce qu'il en est du traitement médico-légal, psychologique des enfants qui ont commis des violations, des infractions. Les situations dans lesquelles ces enfants se trouvent ressemblent parfois à des confinement solitaire et ceci n'a aucun impact positif sur leur situation. Donc si vous pouvez donner plus de détails sur ce sujet, Vous n'avez pas non plus dit quoi que ce soit. Ou peut-être que j'ai manqué cela, mais vous n'avez rien dit sur le châtiment corporel des enfants. C'est une question que nous avons posée hier. Et c'est toujours, si nous comprenons bien, autorisé par la loi. Et une ou deux remarques, en fin de compte, la première sur la surveillance vidéo. Nous apprécions grandement le fait que vous créez un système aussi large de surveillance vidéo, en particulier dans les postes de police et dans les centres de détention à court terme, où la torture est la plus fréquente, parce qu'il y a la question de l'obtention des confessions, etc. Mais si l'on parle des lieux de détention à plus long terme, comme par exemple les prisons, il faut aussi un équilibre entre la surveillance et la vie privée des personnes. Donc il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des prescriptions internationales sur le respect de la vie privée. J'aurais encore une remarque. Nous sommes heureux que vous ayez cette décision du groupe sur la détention arbitraire. Nous encouragerions le Kazakhstan à inviter ce groupe parce que c'est aussi un mécanisme international, un mécanisme de l'ONU qui pourrait avoir un impact sur les activités de l'État et aussi apporter une assistance technique à l'État sur l'approche adoptée pour ce genre de questions. C'est un organe qui a beaucoup d'expérience et je pense qu'une visite de ce mécanisme pourrait être très bénéfique pour vous. Merci encore pour vos réponses très détaillées, très bien préparées. Et nous espérons encore en entendre.